Autre radio, autre culture, bonjour. Nous continuons notre entretien avec Philippe Tessier-Ducrot en compagnie de Christophe Bouillot.
Est-ce que le fait d'avoir ton studio pour le mixage, comme tu nous as dit tout à l'heure, à la maison, ça change ton approche des projets? Le fait de pouvoir, je sais pas, aller dans ton salon, aller t'allonger un peu l'après-midi, une heure, faire une sieste pour après t'y recoller,
exactement,
pouvoir bosser le soir à la place de
bravo
regarder
Christophe,
un film.
T'as tout compris, exactement. Ouais, c'est ça, entre autres.
Ça fait partie de ta patte, quoi, de ta façon de bosser,
ça l'est devenu.
Final, ouais.
D'abord, il y a plusieurs raisons, en fait. La raison numéro un, c'est que je pense qu'on ne mixe bien que dans un lieu qu'on connaît bien. L'importance des écoutes, l'importance de la connaissance qu'on a de l'acoustique et de l'importance de savoir que ce qu'on fait là va pouvoir être pérenne. C'est la difficulté du mixage. Ce n'est pas de faire le meilleur mix du monde, c'est de faire en sorte qu'il le reste ailleurs. Donc ça, c'est déterminant. Et puis, il y a une autre raison, c'est une raison aussi économique, c'est que je peux me permettre de proposer des prestations de mixage. Dès lors que c'est chez moi, ça veut dire que je n'ai pas, pour être aussi bête que ça, de charges locatives d'un endroit, ça paraît con, mais ça permet de baisser singulièrement l'écoute et donc de pouvoir mettre l'argent plutôt dans du qualitatif ou du temps, ce qui me permet de faire des petits cadeaux, ce qui me permet de faire des choses, le but étant d'être content à la fin, quoi. Après, il y a l'aspect, effectivement, qui est à la fois... Alors, ça marche pas pour tout le monde. Hein. Il y a des gens pour qui c'est impossible d'avoir un studio chez soi parce que c'est important psychologiquement d'avoir une rupture entre le travail, la maison, etc. Moi, ce matin, par exemple, à 7h, j'étais en haut en train de changer une équoise sur une basse pour le prochain disque que je mixe là, de Daniel Humer parce que je voulais essayer des trucs. Et c'est vrai que moi, mon métier, il me prend la tête. Hein. Il me prend la tête dans le sens positif. C'est-à-dire que je suis vraiment... Je suis un malade de mon travail. Enfin, il faut comprendre, quoi. Je veux dire, donc, si tu veux... Si je suis content du boulot sur lequel je suis, je vais être souriant, quoi. Si je suis pas content que je me turlupine, je vais être miné. Quand je suis miné, tout le monde est miné. C'est triste, c'est con, hein. Je suis désolé. Là, vous voyez, ce matin, j'ai trouvé une petite solution, là, à 7h, 8h du mat. Donc, je suis arrivé chez vous, c'est super positif. Donc, je suis bien content parce que. Voilà.
Vous avez quand même une vie de famille.
Écoutez, j'ai une famille, oui, j'ai une vie de famille. Que c'est difficile. J'ai une femme très patiente et qui est formidable et des enfants qui sont grands maintenant. J'ai une vie de famille, oui, quand même. Bon, je ne suis pas le père idéal, hein, c'est évident. Hein, je veux dire, je suis pas. Je respecte énormément. J'ai des amis qui sont des pères super. Je suis un lent, je suis un mammifère lent. Je suis un lent et je ne suis pas un doué et je ne suis pas un. Les choses me posent difficulté. J'ai des difficultés à faire les choses. J'y arrive pas forcément du premier coup. Faut que je m'y reprenne, etc. Donc le temps est un truc vraiment important pour moi. Donc forcément, je m'étale, je prends de la place, et je prends du temps, quoi. Donc ça a des effets pervers et collatéraux évidents. Je suis pas un très bon père, probablement pas un très bon mari. Mais voilà. Mais je les nourris, je les envoie à l'école, je les respecte. Et puis finalement, je me dis, je dois pas être si mauvais que ça, puisque l'aîné il veut faire de la musique, alors que finalement, quand on se croise, des fois il m'adresse même pas la parole, mais je sais qu'il m'aime, quoi. Bon, voilà, il fait de la basse, il est content, il vient chercher dans ma discothèque. C'est peut-être ma manière à moi, quoi. Je l'ai peut-être pas emmené souvent à la piscine, je l'ai peut-être pas souvent emmené au jardin public, mais aujourd'hui, peut-être. Moi, mon père, c'est pareil, hein, je lui ai jamais parlé avant l'âge de 16 ans. À partir de 17 ans, on a commencé à se parler, c'était super. Après, il y a un temps pour tout, quoi. Peut-être que je vais être un bon père quand je serai sourd.
Ou grand-père.
Ouais.
Voilà. Non, c'est vrai, je demandais ça au niveau de une vie privée, évidemment.
Non, mais j'ai quand même attendu. Enfin, même s'il y a eu une époque un peu intermédiaire, quand j'avais arrêté d'être associé au studio Gimmick, à l'époque, je parle de ça il y a 15 ans maintenant, où j'avais une petite console et ça m'est arrivé de faire des disques dans mon salon pendant les vacances, les enfants. Et j'ai fait des disques avec des gens comme Nab, des gens comme ça, où il y avait mes enfants qui étaient petits, là, qui couraient autour, c'était rigolo. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai quand même mon étage, je fais la part des choses. Mais c'est vrai que je prends de la place. Ouais. Mais la musique, ça prend de la place. Hein. Bon, voilà, c'est comme un peintre, hein, ça prend de la place. Un écrivain, ça prend un peu moins de place, mais ça prend de la place aussi. Dans les conversations, on est des gens, on prend de la place, quoi. Ça, c'est clair. Prendre de la place, et donc, on peut être chiant, c'est sûr. Hein.
Voilà. On est passionné, c'est pour ça, peut-être aussi.
Oui, on est passionné. Bon, il faut savoir un peu raison garder. Moi, j'ai une femme qui est enseignante, qui fait un boulot formidable. Et c'est vrai qu'on a des fois un peu tendance à pas voir ce qui se passe à côté, c'est un grand tort. J'essaye de faire attention à ça. J'essaye de relativiser. On est quand même, vous savez, quand on est ingénieur du son, on est dans un métier dont personne n'a rien à foutre. Il faut quand même le savoir. C'est intéressant.
Oui, c'est ça.
Il faut le savoir. C'est super important. Oui. Comme j'ai un exemple que je donne souvent, Si demain, un pilote, il rate un atterrissage, ça fait la une de tous les journaux. Si moi, je rate un 10, tout le monde s'en fout. Hein. À moins de s'appeler, à moins de travailler avec David Bowie ou Madonna ou Peter Gabriel, où là, il y aura peut-être en troisième page un petit encart qui dira « le 10 n'est pas très bien réussi ». Moi, ce que je fais, franchement, tout le monde s'en fout. Quoi. Et je pense que, par exemple, le métier que fait ma femme est beaucoup plus important. Elle travaille à Aubervilliers, elle a des enfants qui viennent de tous les pays. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on va se mettre à faire de la politique. Mais enfin, je sais aussi savoir raison garder, quoi. C'est important.
Mais là, je vais mettre le point. Malheureusement, je ne me souviens plus de ce grand groupe qui avait sorti un disque il y a 2 ans, je pense. Et ils avaient raté...
Le mastering. L'histoire de trop fort, quoi. Metallica,
c'était,
je crois. Ouais,
c'était Metallica.
C'était inécoutable.
Les fans avaient fait carrément...
Oui, pour se remixer.
Ils avaient fait une pétition pour se remixer. Et je crois que... Alors, je ne sais pas si c'est une rumeur ou pas, parce que je n'ai pas eu le disque entre les mains, mais je crois que l'ingé de mastering avait demandé à ne pas être crédité, parce qu'il disait ce qui m'est arrivé du mix était déjà tellement fort. J'ai rien pu faire, je ne suis pas caution de ça. Je l'ai fait parce qu'on m'a demandé, parce qu'on m'a payé en gros, mais je ne cautionne pas ça.
Ouais.
Et les fans disaient que le son était meilleur sur les jeux vidéo qui sortaient sur console, sur lesquels on s'amuse à rejouer, partie que sur le disque qu'ils avaient acheté. Quoi. Ça avait fait un tollé complet.
Ouais. Bah oui, mais Metallica, c'est Metallica. Voilà. À la fois, ça doit être très douloureux pour l'ingénieur du son, mais en même temps, ça doit être génial hein, quand même. Le monde entier qui commence à regarder votre boulot. Bon, je pense que le gars qui a fait ça, il devait à peu près savoir ce qu'il faisait. Et puis je pense que, enfin voilà, bon après, on travaille avec des grands groupes internationaux, la pression, évidemment, moi je suis admiratif, hein, je sais plus comment ils s'appellent, les gars qui sonorisent Johnny Hallyday au Stade de France, je suis en admiration, mais moi je suis incapable de faire ça, c'est pour ça que j'ai jamais fait sonner de ma vie, je suis incapable, moi, plus de 3 mecs autour de moi qui me regardent bosser, le moindre Larsen, mais je rentre chez moi, je me couche, pendant 15 jours on me voit plus, hein. Je mets la tête sous l'oreiller, le téléphone sonne, je ne réponds pas, je suis admiratif des gens qui sont capables de vivre ce genre de pression. Je crois que c'était le gars qui bossait, Jean-Pierre Janiot, je crois qu'il a fait beaucoup de sonorisations, entre autres. En plus, il est un excellent ingénieur du son de disque au studio Gang. Et ben, c'est un gars, il sonorise au Stade de France Johnny. Moi, je dis chapeau, j'ai rien à dire. Hein. Parce que moi, cette pression-là, je ne la supporterai pas. Hein.
Vous me rappelez un concert cet été que j'ai vu de Kezia Jones.
Oui.
Et alors, j'avais été là au moment où il avait fait les balances.
Ouais.
Et donc, c'était extraordinaire.
Oui.
Au moment des balances... fabuleux. Et quand les 5000 personnes ou 6000 personnes sont venues pour écouter le concert, ce qu'on avait entendu au niveau des balances, ça n'existait plus au moment du concert. Et on sentait que Kezia Jones se disait « Mais qu'est-ce qui se passe ?»
D'accord. En général, c'est le contraire qui arrive. Alors c'est rigolo, vous prenez l'exemple de Kezia Jones. Figurez-vous, Kezia Jones, il est venu chez moi, enregistré, parce que dans le cadre d'un disque avec Rokia, il y a un morceau qui a fait l'objet d'un single, qui est un duo avec Kezia Jones. Alors, ça m'a fait super plaisir d'abord d'accueillir Kezia Jones, parce que c'est quand même une personnalité majeure. Et puis, ça m'a fait super plaisir de l'accueillir chez moi. Et qui plus est, ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est que ça lui a fait plaisir de venir chez moi. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il s'est installé, je vous ai amené des photos, il s'est installé dans mon salon et je lui ai proposé de boire un thé. Parce qu'en général, ces gars-là, ils aiment bien boire du thé. Les artistes, ils aiment bien boire du
thé.
Oui,
c'est vrai.
Hein, ils aiment bien qu'on prenne un petit moment, on boit du thé avec eux. Bon.
On a du thé, si vous voulez.
Non, mais.
Il n'est pas artiste.
Et voilà, il est artisan, on va faire du café. Parce qu'il faut être debout tôt pour aller bosser, oh Dieu. Et Kezia Jones, alors, il y a un premier truc, il s'est assis, il a vu autour, il a vu les disques, il a vu les livres, et il m'a dit, ah, je me sens bien ici, il y a des livres et il y a des disques. Donc ça m'a fait tilt, parce que ça, c'est aussi un truc particulier. C'est pas très français comme point. Quand on travaille avec des gens équivalents français, c'est beaucoup plus classique comme approche. Là, et donc on est monté après là-haut. Il a fait une guitare, il a fait une voix, et puis voilà. Bon, c'était super. Bah, ça m'a fait plaisir qu'il soit content d'être chez moi. En fait, voilà.
Les petits plaisirs.
Bah ouais, non, mais c'est important parce que c'est ça qui est important.
C'est essentiel.
Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Vraiment. Et puis, ça met en confiance. Ça met en confiance l'artiste. Puis moi, ça me met en confiance. Je veux dire, bon, des gars comme Kezia Jones. J'ai un copain, mon pote Smadge, là, qui tourne pour ses projets aussi avec Dude, là, dont j'ai amené un disque, qui sont des personnes avec lesquelles je bosse depuis longtemps. Il tourne un peu dans le monde entier. Et il m'a raconté, un soir, il était à une fête, comme il y a dans les festivals, à la fin, aux clôtures ou à une soirée. Donc des gens partout dans une maison, enfin vous imaginez le truc quoi. Hein. Et à un moment, il entend une voix guitare, un truc super beau, il s'approche, c'était Kezia Jones qui s'était assis, qui commençait à jouer. Voilà, là c'est pour de la vraie quoi. Là c'est pour de la vraie. Bon, alors quand le gars débarque chez vous et qu'il est content de voir vos livres, bah, vous dites, voilà, on est content, on est bien, on se dit, bah tiens, c'est un chouette métier qu'on fait. Je préfère ça que le gars qui vous dit, comment tu me connais pas, et pourtant, parce que ça m'est arrivé aussi ça. C'est assez marrant. Je dirais pas qui, mais c'est une anecdote quand même assez marrante parce que le gars, il travaillait avec moi pour sur le projet de sur un single de notre copain de la Starac là. Et puis à un moment, il me dit, mais Philippe, qu'est-ce que tu faisais avant? Je lui dis, mais je faisais rien avant. Moi, j'ai toujours fait ce métier. Mais comment ça se fait que je te connaisse pas? Je lui dis, moi non plus, je te connais pas. Alors, le mec, il était scandalisé. Et on m'a expliqué, les copains qui étaient là m'ont dit, mais t'es fou, on dit jamais à ce mec-là qu'on le connaît pas. Et moi, j'ai dit ça dans une totale candeur. Et après, il était vexé. Je lui dis, mais je ne m'en veux pas, c'est pas grave. Voilà, c'est la différence un peu. Il y a Kezia Jones, il arrive, boit un thé, il dit que c'est bien d'avoir des bouquins, puis il y a des mecs qui habitent chez nous, et puis quand on les connaît pas, ils sont révulsés. Bon, voilà, deux approches de la musique différentes.
Deux caractères différents aussi.
Oui, voilà. Oui, mais enfin bon, il y a quand même les vrais, puis il y a les moins vrais hein, quand même.
Autre volet, le jazz. Alors j'ai pris l'exemple de Hadouk Trio. J'étais un peu diesel à ce niveau-là parce que j'ai découvert finalement Hadouk Trio parce que on vous recevait. Ah oui. J'ai écouté ça cette nuit à 2h du matin et
bravo en tous les cas pour le boulot préparation hein.
J'ai trouvé ça superbe.
Bon.
Superbe au niveau de la délicatesse de l'enregistrement, de la finesse de l'enregistrement. Comment vous avez quand vous avez eu Hadouk Trio, comment vous avez dans quel état d'esprit vous étiez?
Écoutez, il faut savoir déjà que Hadouk Trio, c'est trois entités que je connaissais séparément. Il y a Loy, qui est une personne que j'ai connue... que j'ai connue à travers Hadouk indirectement. Bon, on y reviendra éventuellement. Steve Sheahan, le percussionniste, c'est un gars avec lequel j'ai travaillé sur un disque d'Arthur Ashe. La première fois que je l'ai rencontré, il est venu sur un disque d'Arthur Ashe. Il m'a épaté parce qu'en fait, il est arrivé au studio. Je lui ai fait écouter tous les morceaux en l'état. Les autres n'étaient pas encore arrivés. Il a écouté une fois... En une fois, il s'est souvenu de toutes les structures et il savait exactement ce qu'il avait proposé. Et ensuite, je l'ai revu aussi, il était venu à la maison avec toutes ses percus pour faire le disque de Rokia, Bomboy, où il a fait toutes les percus. Donc je connaissais cet aspect-là, je connaissais son goût du timbre. Et puis il y a Didier Malherbe, la troisième personnalité du groupe, qui est un gars que je connaissais pas personnellement, mais que je connaissais à travers le groupe Gong.
Ah oui,
d'accord. Il a fait partie de Gong. Mm-hmm. Alors, si vous voulez, moi, les mecs des années 70 qui ont fait partie de groupes aussi déjantés, j'ai forcément de la tendresse pour eux. Quoi. Parce que c'est des époques incroyables et puis ça n'existe plus, ces choses-là. Ceci, il faudrait toujours sortir un disque, là. Marrant. Et donc, voilà. Ensuite, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, si on dit Hadouk, c'est du jazz, vous allez avoir beaucoup de gens du jazz qui vont faire « Mais non, Hadouk, c'est pas du jazz. » Bon, alors là, on peut... Non, mais je veux dire... Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire, c'est drôle parce que ça, c'est un disque qui a eu les victoires du jazz. Alors évidemment, ça fait un tollé parce que c'est des gens, comme le dirait Loy lui-même, c'est une musique aussi faite de consensus. Alors, on est là aussi pour prendre les gens par la main et puis les emmener. Il y a de l'improvisation, mais on n'est pas non plus là pour... Voilà, c'est une certaine approche de la musique que moi, je respecte parce que c'est fait par des gens qui sont absolument vrais dans leur démarche. Mais la particularité, c'est que c'est des gens qui aiment le timbre et qui aiment le son. Chacun aime le son d'entre eux, quoi. Steve, il a son studio, il passe son temps à parcourir le monde et dans le désert, enregistrer des trucs un peu partout.
Mais vous avez, dans le même genre, vous avez Yann Garbarek, qui est quand même considéré comme du jazz, mais qui a maintenant des racines musicales.
Oui, mais Yann Garbarek, il a quand même fait partie de groupes avec Keith Jarrett à l'époque,
oui.
Où il était avec Palais Danielson, tous ces gens-là, où il est aujourd'hui à la résultante d'un cheminement de 10 ou 20 ans. Hadouk Trio, des fois, d'aucuns disent que c'est un groupe de jazz, d'aucuns disent que c'est un groupe de world music. C'est à la croisée des chemins. Bon, de toute façon, peu importe, je dis ça tout simplement parce que je sais déjà comment certains auditeurs vont réagir en disant « du jazz, quand même, bon ». Voilà, alors après, maintenant, on a fait ça en studio, à Malakoff à l'époque. Vous savez, je veux dire, il y a une interview dans le truc, là, dans la pochette, dans cette version éditoriale. C'est facile d'enregistrer Hadouk Trio, franchement. Hein, je vous dis, si on est un peu curieux et qu'on essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne, les gars, ils ont un son. Des mecs comme Didier Malherbe, ils jouent du doudouk. Je sais pas ce que c'est que le doudouk, entre autres. Le doudouk, c'est un instrument, c'est un enfer à jouer. Hein. C'est un peu comme le hautbois. Ça sonne miraculeusement entre ses mains. Steve, c'est un dingue du timbre. Et c'est des gens qui pensent les compos en pensant son en même temps. Je ne sais pas qui précède l'autre. Mais c'est de toute façon, c'est des séances détendues. C'est des séances avec des gens qui sont très, 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 très cool. Là encore, je suis désespéré de t'obliger de vous dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Quoi. C'est assez facile. Ce qui est agréable avec eux, c'est que j'ai fait ce disque avec eux. J'ai fait le suivant, qui est un live, qui est vachement bien. Et j'ai fait le dernier qui sort là, dans un mois. Il y a un truc qui est sympa, c'est qu'on progresse ensemble. On essaye toujours d'aller un peu plus loin. Et c'est ça qui est super aussi dans les collaborations de long terme, comme avec Boyan, c'est qu'on essaye toujours d'aller un peu plus loin sur le disque précédent. Sur le disque précédent. Alors des fois, c'est par des biais techniques. Ça peut être parce qu'on a des meilleurs micros, mais c'est aussi parce qu'on se comprend mieux. Mais c'est pas compliqué avec eux. Hein.
Cependant, au niveau de la spatialisation de la musique, c'est vous qui décidez ça, finalement. Oui. Eux n'ont pas à s'ingérer là-dedans.
Bon, ils en ont envie, évidemment. Et c'est pas interdit, il n'y a pas de panneau.
En général, ils ne le font pas. C'est vous qui graduez cette spatialisation, cette finesse des timbres.
C'est un peu mon truc. Hein. Si vous voulez, moi, j'ai... c'est pour moi la mise en espace, c'est un dada, hein, c'est un truc pour moi auquel je suis très 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 sensible et je fais très attention à ça. Je réfléchis pas mal à ça, j'essaie de voir ce qui marche le mieux. J'aime bien que ça sorte pas trop des enceintes, hein, et j'aime bien que ce soit un peu ludique. J'aime bien qu'il y ait de la profondeur. En fait, j'aime bien tout ce qui fait que les moyens modernes de transfert du signal vous laissent de côté, quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien ce qui se passe entre les notes. J'aime bien la profondeur, qui est souvent une notion un peu qu'on a plutôt l'habitude d'entendre en classique. Mais j'aime assez ça parce que j'ai écouté beaucoup de classiques aussi. J'écoute toujours beaucoup de classiques. J'écoute beaucoup de musique contemporaine. Je suis un grand admirateur des grands preneurs de son classiques. Ils font un travail magnifique dont on parle rarement parce que c'est rarement à la télé. Mais c'est des gens super. Je pense que vous en connaissez évidemment. Mais enfin, il y a des gens formidables. Et en général, c'est un choix. C'est un choix. Après, quand on là avec Hadouk, c'est Loï qui suit les mix. Et Didier, il vient un peu faire des apparitions. Toujours très très bien. Steve, il est toujours de par le monde. Et en général, je propose. Et puis Loï, avec une grande acuité, dispose aussi, me donne son avis. C'est toujours très, très éclairé, ses avis. C'est même franchement agaçant. Il a souvent raison, il faut reconnaître. Merde. Et moi, j'ai un peu grandi. Alors, c'est vrai que quand je me rends compte qu'il avait raison, bah, je lui dis le lendemain. Je lui dis, t'avais raison, j'aurais écouté, c'est vrai que c'est toi qui avais raison. Quoi. Bah, c'est un grand frère, hein, il est un peu plus âgé, hein, mais il connaît bien le son.
Est-ce que ça vous permet, ce genre d'échange, d'évoluer pour un autre son ou pour une autre méthode de travail?
Oui, c'est une question, difficile. Ça, c'est, d'un certain côté, ça confirme parfois des options, des choses qu'on sait, sur lesquelles on a travaillé, sur lesquelles on a fait ses gammes. Puis des fois, on défend un truc, puis l'autre, il n'est pas forcément d'accord. En plus, un gars comme Loï, c'est un mélange très subtil de type super tendre et en même temps, il lâche pas l'affaire. Hein. Tout dans la douceur, mais il lâche pas l'affaire. Et il vous met le doigt sur un défaut, et puis voilà. Et puis en fait, il avait raison. Bah voilà, on a appris. Hein. On a appris. On saura maintenant que, ben tiens, des fois, c'est bien ça, de ce compresseur. Bah, il avait raison. Et on l'entendait un peu trop. Et nous, on trouve que c'est bien qu'on l'entende parce qu'on a envie de faire de la pop. Puis on aime bien les Beatles. Mais des fois, bah non, bah ça marche pas à tous les coups. Mais lui, il a une grande oreille. Avec Vincent Segal, on en parle souvent de Loï. On a peur de lui faire écouter ce qu'on fait. Ah oui, parce qu'il entend tout. Et il est super gentil, et c'est un mec super.
Troisième volet avant de terminer cette émission, parce qu'on va se revoir. Il faut absolument qu'on se revoie pour parler de la technique. On avait voulu faire une partie technique aujourd'hui, mais malheureusement, on prend beaucoup de temps pour parler de vos productions.
Bah, avec joie, oui, ça me fait plaisir. Faut le faire si vous en avez envie, hein, surtout.
Tout à fait. Moi, je voulais parler en dernier, bien qu'il y a plein d'autres artistes, parce qu'on les a écoutés tout à l'heure et que j'ai trouvé sublime. C'est Balaké Sissoko et Vincent Segal dans Chamber Music.
Oui.
Et Camilla Joubran Makan,
oui,
qui est une artiste palestinienne, c'est ça?
Alors, Camilla Joubran, c'est une artiste palestinienne. Je vous dis, parce que c'est vraiment une jolie histoire. C'est une grande chanteuse, hein, ça c'est... Bon, il n'y a rien à dire de plus, c'est une évidence. Quand des gens viennent chez moi, des fois, et qu'ils sont un peu énervés, ils ont du mal à se garer ou je ne sais pas trop quoi, je leur dis, assieds-toi, je fais écouter le premier morceau, et tout va bien, c'est reparti, la vie est belle. Et la vie est forte aussi, parce que c'est fort ce qu'elle fait. En fait, elle, c'est drôle, parce que je suis allé un jour voir des concerts à Africolor, le festival d'Africolor qui a lieu tous les ans, pour y voir quelques amis, et je tombe sur le premier concert de la soirée, il y a plusieurs concerts, je tombe sur un duo, une femme avec un oud qui chante et un gars en face qui balance des samples et qui balance du son électronique. J'ai pris une claque. C'était trop beau, quoi. C'était magnifique. Magnifique, magnifique. C'était d'une délicatesse, d'une intelligence, d'une beauté, d'une simplicité, enfin tout, quoi. C'était le plus beau concert de la soirée, tout simplement. Et je ressors du concert enchanté et puis en même temps malheureux parce que ça, c'est des choses qui arrivent, puis il ne se passe plus rien. Puis deux jours après, j'étais chez moi et je reçois une amie avec laquelle on travaille, qui est contrebassiste et qui est aussi compositrice, qui est une fille super, qui s'appelle Sarah Murcia, que j'ai rencontrée au départ avec Magic Malik. Elle était la contrebassiste de son groupe, mais elle fait plein de trucs, elle a réalisé des disques avec Kijlin, avec Jeanne Balibar, enfin c'est une fille super. Puis c'est une grande amie, puis c'est quelqu'un que j'adore, très généreuse. Elle passe à la maison, elle arrive, elle me dit « Philippe, il faut absolument que tu écoutes ça ». Elle me tend un disque, un CD audio. Elle me dit « Il faut que tu écoutes ça ». Alors je dis « Ah bon, c'est quoi ?» Évidemment, je n'écoute pas. Je lui demande de m'expliquer. Et elle me dit ben voilà, c'est une femme qui fait ci, qui fait ça. Puis je dis « Attends, mais attends, la personne dont tu me parles, là, je crois que je l'ai vue il y a 2 jours. Comment elle s'appelle ? » Elle me dit « Camille Joubran ». Je dis « Ah ben oui, c'est elle, c'est monstrueux. » Il y a un projet avec elle, elle me dit « Oui, oui, il faut absolument faire ça ». Je dis « Il n'y a aucun problème, on le fait ». On le fait parce qu'en même temps, mon ami Franck Jaffresse, qui est le directeur artistique du label Zigzag, un label classique, mais qui s'ouvre à d'autres musiques, qui est un grand directeur artistique et un grand ingénieur du son, fait partie de ces gars qui peuvent enregistrer Schoenberg tout en discutant avec Boulez avec la partition. Hein. On n'est pas dans la rigolade, là. Bon. Je l'appelle, je lui dis bah, « Ça y est, j'ai le premier truc de la collection ». J'ai le premier disque de la collection. J'ai pas écouté le CD, j'ai pas besoin d'écouter. Je te le file, t'écoutes, tu verras. Mais moi, je sais que ça va être super. Et c'est un disque qu'on a enregistré en 5 jours, et chaque jour dans un lieu différent. Dans la région de Grenoble, on a fait ça dans une petite église. On a fait ça, la grande salle de la Maison de la Culture de Grenoble qui nous avait été prêtée. On a fait ça au Musée d'Art Moderne. On a fait ça aussi dans les champs. Voilà. Parce que c'est ce sont des textes de poètes vivants arabes. Qui traite entre autres de l'espace, qui traite du voyage. Et c'était une évidence, il fallait qu'on fasse comme ça. Et voilà, j'ai adoré. C'est un disque qui a été bien reçu par la presse, ça m'a fait plaisir. Et c'est surtout un disque qu'on travaille dans une continuité, parce que le duo que j'ai vu la première fois, bah, ça y est, là je sors le disque, on a fini. Et là, c'est le duo avec Camilla et Werner Hassler, qui est un trompettiste et aussi un gars qui fait de l'électronique d'une façon absolument magnifique, d'une délicatesse sublime. Si tout à l'heure, vous avez 2 secondes, je vous ferai juste écouter un morceau, vous comprendrez, c'est trop beau, quoi. Et donc, c'est une véritable joie, c'est une super... qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? C'est une super grande artiste. Quand on enregistre, on s'installe. Dans une église, par exemple, on s'installe, elle est là, elle est super patiente, elle attend. Et puis voilà, puis de toute façon, il faut être prêt, parce que la première prise, c'est la bonne en général. Et après, on fait peut-être des petits montages, parce qu'elle est exigeante. C'est une magnifique rencontre. Et du reste, c'est drôle, parce que... Quand j'en parlais à mes amis de Hadouk, j'en parlais à Loï, j'en parlais aussi à Jean-Philippe Riquiel, qui travaille beaucoup avec les Africains, je disais, vous connaissez, je vais travailler avec Camilla Joubran. Il me disait, Camilla Joubran, c'est magnifique, tout le monde était content. C'est une super personne, une super grande artiste. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Hein.
Acheter le disque ?
Oui, acheter le disque.
On peut-être, avec ta permission, peut-être qu'on fera une petite liste de tout ce que tu nous as apporté, que les gens puissent éventuellement, peut-être pas tout, mais...
Je veux pas non plus... les disques, je les ai apportés plus parce que c'est des chemins de vie, quoi. Voilà, c'est des trucs histoire de guider une discussion. Si j'étais un grand musicologue, je vous dirais plein de trucs intéressants sur Camilla Joubran, c'est
juste beau.
Oui. Je trouve que les journalistes ont parfois un petit peu trop tendance à parler, à remettre ça sur un débat politique. Elle est évidemment concernée, mais c'est totalement au-delà de ça. Le propos, il est au-delà de ça. Là. C'est vraiment...
Dernière question que je vais vous poser, et je me demande si j'ai à la poser, parce que ça paraît évident en écoutant tous vos disques.
Oui.
J'allais vous demander si vous aviez une signature de son. Et finalement, quand j'écoute ces disques, on sent cette signature. On se dit, tiens, c'est du Philippe Tessier.
Écoutez...
je laisse perplexe.
Non, vous me laissez pas. Non, c'est parce que c'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est un très beau compliment, d'abord. Et c'est un très beau compliment et un compliment, il faut s'en montrer digne. Moi, je suis pas forcément toujours très très conscient de ce que je suis. Je sais que c'est ça m'est arrivé de. Enfin, j'ai su qu'on pouvait dire ça de moi. Maintenant, j'ai tellement été éduqué avec de tels maîtres. J'ai tellement entendu des gens qui méritent tellement ça mieux que moi que je voudrais être sûr d'en être digne. Parce que, bon, c'est quand même une responsabilité. Un jour, mon ami Raphaël Jonin, qui est un ingénieur de mastering, m'a raconté qu'il y a un copain ingénieur qui vient un jour dans sa cabine et qui écoute 10 secondes. Il dit « Tiens, ça doit être Philippe qui l'a fait ». Ça m'a fait super plaisir parce que je pense que c'était... Voilà, écoutez... Ça m'est difficile de vous répondre sans friser la prétention, peut-être, je ne sais pas. Si c'est ce que vous pensez, franchement, je ne peux que vous remercier et vous dire, bah, écoutez, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir. L'autre jour, j'étais en mastering pour le prochain disque de Camilla, justement, et je dis à Raphaël, fais voir comment ça sonne par rapport à du Oud, à un autre disque dont j'étais content du résultat global. Et je lui dis en rigolant, je lui dis, tiens, c'est marrant, ça sort de la même écurie. Il m'a dit, bah ouais. Voilà.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc, écoutez, merci. Ouais, parce que c'est pas si mal et donc je suis contente, ça, oui, ça me fait plaisir.
Alors pour apprécier le travail de Philippe Tessier-Ducrot, moi je vous conseille d'acheter les disques et de ne pas les écouter sur Internet. Ah, ça, parce c'est bien, que ça. C'est vraiment un travail exceptionnel. Je le ressens vraiment.
Écoutez, ça,
et
ça
me... c'est vraiment un type de travail que j'adore.
Merci.
Et ça, on a envie d'en acheter des milliers, des comme ça.
Ah bah écoutez, c'est gentil. C'est gentil comme tout. Vraiment, merci beaucoup. On se sent bien chez vous, en fait. Hein.
Voilà. Philippe, moi j'espère vous revoir parce qu'on a à peine abordé la question technique.
Oui, bah écoutez,
on a encore plein de questions à vous poser.
Moi c'est avec plaisir, on prend rendez-vous et bon, le technique, j'espère ne pas vous laisser sur votre faim. J'ai appris un peu la technique, je m'y intéresse. Mais oui, avec plaisir. J'espère ne pas vous décevoir, c'est tout. Parce que je suis pas forcément.
Il y a tellement à dire qu'on reparlera sûrement aussi de musique.
Oui, non, mais de toute façon,
il y a plein de choses à dire.
C'est lié évidemment.
C'est lié.
Non, mais avec plaisir, vraiment avec plaisir. Moi, vous savez, ça me fait tellement plaisir de rencontrer des gens qui s'intéressent au son, des gens qui aiment les micros. J'aime bien cette pièce-là, avec les caméras, les amplis, les enceintes, des micros. C'est génial. Je vais amener ma femme ici, elle se dira que sinon, c'est pas mal chez moi quand même. Hein.
Va relativiser.
Je peux venir avec elle la prochaine fois.
C'est comme les films d'horreur. On regarde un film d'horreur. Oui. Finalement, quand le film d'horreur s'arrête, on se dit « Oh, finalement, j'ai une belle vie.
» Oui, c'est ça. Non, mais là...
Bien, merci beaucoup, bah, Philippe Tessier-Ducrot, d'être venu. Je vous dis à très bientôt,
oui.
Pour la partie technique.
Oui.
Merci Christophe.
Avec grand plaisir. À bientôt.
À très bientôt.
À très bientôt.
Ici Autre Radio, Autre Culture. Au revoir. Autre Radio, Autre Culture.